Note sur l'épître de Jacques, recueillie dans des réunions d'études. Article du Messager évangélique de 1910. Chapitre 5. À vous, maintenant riches, pleurez en poussant des cris à cause des misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous, crie. Et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez vécu dans les délices sur la terre, et vous vous êtes livrés aux voluptés. Vous avez rassasié vos cœurs, comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste. Il ne vous résiste pas. Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi usez de patience. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge se tient devant la porte. Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez ouï parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Mais avant toute chose, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il maltraité, qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée, et qu'il prie pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre, et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu'il ne plût pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité, et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Versets 1 à 3. À vous maintenant, riches, pleurez en poussant des cris à cause des misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor dans les derniers jours. Ce premier verset est le pendant du verset 13 du chapitre précédent. L'un est caractérisé par l'indépendance de Dieu et l'autre par la confiance dans les richesses. Jacques, s'adressant aux Juifs de la dispersion, a en vue une classe de personnes vivant dans l'inconscience des temps qu'elles traversaient et de l'imminence des jugements. Elles sont invitées à pleurer, à pousser des cris, car elles seraient sans ressources quand les jugements fondraient sur elles. Leur richesse pourrie, en qui elles mettaient leur confiance, ne les garantirait nullement. Ces gens préféraient les délices de la terre à l'état des bienheureux qui pleurent, mais seront consolés, lorsque ceux qui rient maintenant seront dans la détresse. Ils étaient dans les derniers jours. Au lieu d'agir en conséquence, ils les employaient à amasser des trésors comme si tout devait durer ici-bas. Ce qui fait la gravité de ce mal, aujourd'hui comme alors, c'est amasser un trésor dans les derniers jours. L'apôtre Paul, au contraire, ordonne à ceux qui possèdent de ne pas mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui donne toutes choses richement pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner, libéraux, s'amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Les croyants ont à faire leur profit des avertissements donnés dans ces passages. La recherche des richesses est la racine de toutes sortes de maux. 1 Timothée 6. Puis le grand danger des richesses est de les faire servir à satisfaire la chair, à se soustraire à la dépendance de Dieu et à se détourner de Christ. Tel chrétien désirerait être riche pour faire du bien, mais il ignore que, s'il avait davantage, il serait sur la pente fatale et en danger d'en faire usage pour lui-même. Quant aux choses matérielles, le chrétien n'a rien à choisir, mais dans les choses spirituelles, il doit choisir la meilleure part. Marie avait choisi la bonne part. Abraham ne choisit rien quant aux avantages terrestres, et Dieu lui donne tout. Lot choisit pour sa part le monde sur lequel va tomber le jugement. Nous devons être pénétrés du fait que nous sommes dans les derniers jours et traiter les biens de ce monde en conséquence, car les jugements s'approchent rapidement.
Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété ?
2 Pierre 3, verset 11. Verset 4.
Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous, cris, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth.
Pour s'amasser des trésors, ces gens-là agissaient injustement, en frustrant de leur salaire ceux qui avaient moissonné leurs champs, et s'enrichissaient ainsi aux dépens du pauvre. Jacques les place sur le terrain de l'Ancien Testament, leur déclarant que les cris des opprimés étaient parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth, c'est-à-dire aux oreilles de l'Éternel des armées. Les armées de l'Éternel sont les armées célestes, les anges. Ce terme donne l'idée d'une grande puissance qui intervient au moment voulu de Dieu, soit en faveur des siens, soit pour le jugement des méchants. En général, il est mentionné en contraste avec ce qui se passe sur la terre, et l'on comprend pourquoi le Seigneur Sabaoth est nommé en rapport avec l'injustice de ces gens-là. Il allait intervenir, car les armées de l'Éternel sont à son commandement. Il les appelle devant lui pour exécuter sa volonté. Ceux qui sont opprimés aujourd'hui comme alors ont à attendre patiemment l'intervention du Seigneur Sabaoth. Une note en bas de page, dans les passages suivants et d'autres encore, l'armée des cieux désigne les anges. Fin de la note. Versets 5 et 6.
Vous avez vécu dans les délices sur la terre, et vous vous êtes livrés aux voluptés. Vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste, il ne vous résiste pas.
À leur recherche des richesses pour vivre dans les délices sur la terre, se lie leur haine contre le juste, dont la présence et le témoignage sont contre eux et leur voix. Ils ne peuvent le supporter, ils le condamnent et le mettent à mort, d'autant plus qu'il ne leur résiste pas.
C'est ce qu'ils firent avec Christ. On voit, dans l'Évangile, cet esprit se développer graduellement chez les pharisiens. Ils finissent par condamner le Seigneur, sa présence qui les jugeait leur étant devenue insupportable. Aussi, les jugements étaient à la porte envers ce peuple. Au lieu d'en tenir compte, ils vivaient dans les délices, se livraient aux voluptés, rassasiaient leur cœur comme en un jour de sacrifice, et se débarrassaient du juste, dont le caractère est de ne pas résister, parce qu'il s'attend à celui qui est au-dessus de tout. Verset 7.
Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison.
La patience et la prière sont les sujets qui terminent l'épître. Le verset 7 se relie au verset 6. Il faut prendre patience jusqu'à la venue du Seigneur, ne pas résister. On est patient quand on attend le Seigneur d'un instant à l'autre. Paul dit aux Philippiens,
« Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. »
Le laboureur attend le fruit précieux de la terre avec patience, il ne peut rien hâter. Il attend la pluie de la première saison qui fait germer et celle de la dernière saison qui amène le fruit à maturité. Nous avons déjà reçu la pluie de la première saison à la Pentecôte par l'envoi du Saint-Esprit, et la pluie de la dernière saison arrivera pour Israël lorsque la bénédiction lui sera apportée en puissance par l'Esprit à la venue du Seigneur pour Israël. Joël 2, verset 23, qui aura été précédé de sa venue pour l'Église. Joël 2, verset 23,
« Car il vous donne la première pluie dans sa mesure et fait descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie au commencement de la saison. »
En 2 Samuel 23, verset 4 et en Osée 6, verset 3, la pluie de la dernière saison est présentée comme la venue du Seigneur. 2 Samuel 23, verset 4,
« Il sera comme la lumière du matin quand le soleil se lève, un matin sans nuages. Par sa clarté, l'herbe tendre germe de la terre après la pluie. »
Osée 6, verset 3.
Nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre.
Nous attendons le Seigneur. Nous avons part à la patience en Jésus. Le Seigneur attend, nous devons garder la parole de sa patience, comme Philadelphie, et nous attendons, comme le laboureur attend le moment de la moisson. Le cœur doit être affermi par la certitude et la proximité de ce retour, comme il est dit,
« Pour affermir vos cœurs sans reproche, en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. »
1 Thessaloniciens 3, verset 13. Pierre dit dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 17,
« Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. »
Plus on est près du but, plus il est important de tenir ferme. Verset 9
« Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge se tient devant la porte. »
Un autre aspect de la venue du Seigneur, c'est qu'il vient pour exercer le jugement. En rapport avec cette vérité, nous ne devons pas murmurer les uns contre les autres, afin de n'être pas jugés. Au chapitre 4, verset 11, le juge est mentionné. Ici, il est à la porte. Il n'a pas un long chemin à faire. Il se tient devant la porte, prêt à entrer. Prenons garde à ce solennel avertissement. Jacques 4, verset 12.
« Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain ?»
Verset 10.
« Mes frères,
Prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
Prenons pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, annonçant sa venue et témoignant contre le mal dans lequel se trouvait le peuple. La patience se montre si l'on réalise que le Seigneur va venir pour délivrer les siens et juger le monde. Nous n'avons pas à juger le monde aujourd'hui, mais à nous juger nous-mêmes. Il nous faut imiter le Seigneur dont il est dit
« J'ai attendu patiemment l'Éternel, il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. »
Psaume 40, verset 1. Verset 11.
Voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez ouï parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur. Savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux.
Jacques répète ce qu'il a dit au verset 12 du premier chapitre.
Bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience.
La patience de Job nous est donnée comme exemple, car, devant l'activité de Satan contre lui, cette patience a été manifestée. Mais Job avait, en outre, à apprendre à se connaître par un long et pénible exercice, car ses amis ne comprenaient rien aux voix de Dieu envers lui. C'est alors que nous voyons la fin du Seigneur, qui est plein de compassion et miséricordieux. La bénédiction de Job fut double après l'épreuve. Il est encourageant pour nous, quand nous y passons, de savoir qu'elle sera suivie de la fin du Seigneur. Verset 12.
Mais avant toutes ces choses, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.
Ce qui est rappelé dans ce verset est très important, puisque Jacques l'introduit en disant
« Mais avant toute chose, mes frères,
il ne faut jurer ni par le ciel, ni par la terre, ni par un autre serment. » Jurer dénote une certaine confiance en soi. C'est un acte de volonté propre qui cherche à faire descendre le ciel à notre niveau pour donner du poids à nos affirmations, comme si nous pouvions disposer des choses par lesquelles nous jurons. Le Seigneur dit de ne jurer
ni par le ciel, car il est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi.
Quoique peu apparente, nous trouvons ici une liaison avec l'exhortation à la patience des versets précédents. L'état d'âme dans lequel on veut à tout prix affirmer son dire fait contraste avec l'esprit de patience qui dit les choses telles qu'elles sont, les affirme par un oui ou par un non, et attend que Dieu fasse la lumière si notre dire est contesté. Si nous vivions d'une manière plus habituelle dans le sentiment de la présence de Dieu, le oui ou le non suffirait, et nous n'éprouverions pas le besoin de faire intervenir Dieu comme s'il s'agissait d'un fait extraordinaire. Le Seigneur dit
« Ce qui est de plus vient du mal. »
Il ne faut pas confondre cette exhortation à ne pas jurer à tout propos avec le serment requis par l'autorité, avec l'adjuration par laquelle on est soumis solennellement de dire la vérité. On voit en Lévitique 5, verset 1, que c'était un grave péché de ne pas dire la vérité après avoir été adjuré de le faire. Lévitique 5, verset 1.
Et si quelqu'un a péché, en ce que, étant témoin et ayant entendu la voix d'adjuration, ayant vu ou su, il ne déclare pas la chose, alors il portera son iniquité.
En Matthieu 26, verset 63, le Seigneur garde le silence en présence des faux témoins. Matthieu 26, verset 63.
Mais Jésus garda le silence.
il ne prend pas le ciel à témoin pour annuler leurs accusations. Mais lorsque le souverain sacrificateur l'adjure par le Dieu vivant, il lui répond. Tandis que Pierre, au verset 74, jure librement pour affirmer le plus affreux mensonge. Matthieu 26, 63, fin du verset.
Et le souverain sacrificateur répondant lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant que tu nous dises si toi tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui dit, « Tu l'as dit. »
Matthieu 26, verset 74.
Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. »
Si quelqu'un est sommé de dire ce qu'il a vu ou entendu, et qu'il ne puisse répondre de sa mémoire, il doit le dire. Le jugement tombera sur ceux qui murmurent les uns contre les autres, comme sur ceux qui jurent légèrement, manquant de calme et de modestie, et ne vivant pas dans le sentiment de la présence de Dieu. L'Ecclésiaste dit
« Ne te presse point de ta bouche, et que ton cœur ne se presse point de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux, et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. »
Ecclésiaste 5, verset 2. Verset 13.
Quelqu'un parmi vous est-il maltraité, qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux, qu'il chante des cantiques?
Cette épître remplie d'exhortations se termine par celle à la prière. Aujourd'hui, nous avons beaucoup oublié la grande part que doit avoir la prière dans toute notre vie et dans nos relations fraternelles. Autrefois, lorsqu'il y avait plus de vie et de fraîcheur spirituelle chez les croyants, on priait beaucoup plus. On priait dans chaque circonstance. On ne se séparait pas sans avoir prié ensemble. Après avoir été obligés de nous occuper du mal chez l'un d'entre nous, si nous prions avant de nous séparer, cela détruirait le sentiment pénible ou l'amertume que nous pourrions garder contre celui qui a mal agi. Nous intercéderions pour lui au lieu de nous irriter.
Quelqu'un parmi vous est-il maltraité? Qu'il prie?
Par la prière individuelle, nous cherchons la communion avec le Seigneur afin de pouvoir supporter nos épreuves.
Patient dans la tribulation, persévérant dans la prière.
Romains 12, verset 12. L'apôtre dit
« Calomniés, nous supplions. »
1 Corinthiens 4, verset 13. Étienne priait lorsqu'on le lapidait. Voir aussi 1 Pierre 2, verset 23.
Lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement.
L'exercice de la prière précède toujours un relèvement, une restauration. Zacharie 12, verset 10.
Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né.
Par elle, nous exprimons la foi, la confiance et la dépendance.
Quelqu'un est-il joyeux, qu'il chante des cantiques?
Afin d'être gardé de donner essor à sa joie d'une manière charnelle. Il faut que toutes les circonstances que nous traversons, dans la tristesse ou la joie, aient pour effet de nous mettre en relation plus intime avec Dieu, plutôt que de nous en séparer. Versets 14 et 15.
Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée, et qu'il prie pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
La difficulté pour pratiquer cette exhortation semble provenir du fait qu'il n'existe pas d'anciens établis dans les assemblées. Cependant, si nous n'avons plus d'autorité apostolique pour en établir, nous pouvons reconnaître des frères qui en ont le caractère et le service. L'apôtre dit
« Nous vous prions de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent.
1 Thessaloniciens 5, verset 12. Il est toujours possible d'appeler de tels frères pour qu'ils prient auprès d'un malade. Il ne s'agit pas là d'un mode spécial de guérison. Le malade n'a pas à demander d'être guéri dans n'importe quel cas. Les anciens ont affaire avec Dieu pour cela. Étant au courant des circonstances du malade, ils sont censés avoir l'expérience et la sagesse pour savoir ce qu'ils ont à demander. Ils peuvent discerner s'il y a eu du péché, quels manquements ont amené cette épreuve, et ils jugent selon la pensée de Dieu. Dans beaucoup de cas de maladie, nous pouvons être sous la discipline du Seigneur sans que des péchés particuliers en soient la cause. Les anciens peuvent aider au malade à voir où il en est devant Dieu et à se rendre compte de sa volonté, afin qu'il puisse demander la guérison avec foi, en ayant une même pensée avec le malade. En sorte que, si la prière est réellement la prière de la foi, et que l'onction soit faite réellement au nom du Seigneur, le malade sera sauvé, et le Seigneur le relèvera. Il ne s'agit nullement ici de présenter un cas au Seigneur en disant « si c'est ta volonté », mais de la foi qui, sachant qu'elle demande une chose selon sa volonté, reçoit l'exaucement. La difficulté que nous éprouvons à mettre en pratique cette exhortation provient plutôt de notre manque de spiritualité pour discerner la pensée du Seigneur. L'onction d'huile par elle-même ne communique rien. Cela faisait partie de coutumes juives et d'ordonnances lévitiques. La valeur de l'onction, dans ce cas-ci, c'est qu'elle puisse être faite au nom du Seigneur, accompagnée de la prière de la foi. Si les anciens de l'assemblée estimaient ne pouvoir avoir la foi pour la guérison, ils ne la demandaient pas, et c'eût été chose inutile d'oindre le malade d'huile, car nous ne pouvons être exaucés qu'en ayant la pensée de Dieu.
C'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose qui soit selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons les choses que nous lui avons demandées.
1 Jean 5, versets 14 et 15. Pour demander les choses que Dieu peut accorder, il faut que notre état pratique nous permette de discerner sa volonté.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait.
Jean 15, verset 7. Dans ce passage, il n'est pas question de la foi mentionnée comme don en 1 Corinthiens 12, verset 9.
Et à un autre la foi par le même esprit.
Cette foi, qui n'est pas le partage de tous, rend capable d'affronter des difficultés insurmontables pour d'autres. Par contre, la foi qui sauve, part de tout croyant par l'ouïe de la parole de Dieu, nous oblige à agir en toutes choses sur ce principe. Romains 14, verset 23.
Or tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché.
Tout ce qui n'est pas fait sur le principe de foi est péché, car cela découle du principe de la volonté propre. Verset 16.
Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup.
Si, vu l'état de ruine de l'Église, nous ne pouvons pas souvent réaliser l'exhortation des versets 14 et 15, nous trouvons au verset 16 ce qui peut se pratiquer toujours.
Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre.
Ce verset laisse supposer que ce qui précède pouvait finir, étant plus facilement applicable à un état normal de l'Église. Remarquons aussi la sagesse de la parole qui évite de dire qu'on devait confesser ses fautes aux anciens afin d'ôter tout fondement scripturaire à l'institution de la confession. Dans le cas où les anciens sont appelés, un péché peut être en cause, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont appelés. S'il y a eu des péchés, ils sont pardonnés. Jacques prend maintenant occasion de ce fait pour encourager les croyants à confesser leurs fautes l'un à l'autre et à prier l'un pour l'autre afin d'être guéris. Nous pouvons ainsi nous aider mutuellement à nous juger devant Dieu, afin que, dans son gouvernement, il puisse intervenir en grâce. Nous devrions manifester assez de grâce et d'amour dans toute notre marche pour gagner la confiance les uns des autres. Alors, cette confession des fautes peut avoir lieu sans crainte, dans des cas où la conscience est chargée, mais où l'intervention de l'Assemblée n'est pas nécessaire. Certes, il ne faudrait pas user de ce moyen lorsqu'une faute qui nécessite la discipline de l'Assemblée a été commise, et dans le but d'échapper à cette discipline. En pareil cas, l'Assemblée ne serait pas purifiée, ni le coupable restauré, durant sa vie entière. Il faut que le frère auquel la faute est confessée ait assez de discernement pour savoir s'il est nécessaire ou non de porter le cas devant l'Assemblée. Cette confession de l'un à l'autre est un cas spécial. Tandis que la confession à Dieu de 1 Jean 1, verset 9, doit avoir lieu pour chaque manquement entre l'âme et Dieu et dans le but d'être réintroduit dans la jouissance de sa communion. 1 Jean 1, verset 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. La fervente supplication du juste peut beaucoup.
Quel encouragement à la prière individuelle! Si nous nous maintenions habituellement dans un bon état d'âme, combien nous pourrions être en aide aux autres par l'exercice d'un amour qui recevrait la confession des fautes et qui, par la prière, délivrerait le coupable des conséquences de son péché. Versets 17 à 18.
Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous. Et il pria avec instance qu'il ne plût pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.
Si la prière individuelle est d'une grande efficace dans l'exercice de l'amour fraternel, elle peut aussi avoir des résultats surprenants dans tout ce qui concerne la gloire de Dieu sur cette terre. Tel fut le cas d'Élie au temps d'Akab. Jacques le cite pour montrer ce que peut la prière du juste, d'un juste qui pouvait dire
« L'Éternel devant qui je me tiens ».
Afin que nous n'attribuions pas le succès de sa prière à sa qualité de prophète, Jacques a soin de dire
qu'Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous.
Ayant la chair en lui, il était exposé aux mêmes faiblesses que nous-mêmes. Mais, vivant dans la présence de l'Éternel, il était en communion de pensées avec lui. Il avait à cœur le bien du peuple qu'il voulait ramener à l'Éternel, et sachant qu'en demandant qu'il ne plût pas pendant 3 ans et demi, il était en communion avec Dieu au sujet du bien de son peuple, il fut exaucé. Ce fut encore comme réponse à la prière d'Élie que la pluie survint à la fin de ce temps de sécheresse. Cet exemple est d'autant plus encourageant que le livre des Rois ne nous dit pas que ces faits extraordinaires fussent le résultat de la prière du prophète. Ce qui caractérise la prière de la foi, c'est l'intelligence des pensées de Dieu, la confiance et la persévérance. Versets 19 et 20.
Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité, et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.
Nous voyons ici l'amour s'exerçant envers quelqu'un qui s'est égaré. Il est question premièrement d'un croyant, puisqu'il est dit
quelqu'un parmi vous.
C'est un cas différent de ceux des versets 14 à 16, où l'un était sous une discipline et l'autre sous un jugement. C'est quelqu'un qui s'est égaré de la vérité. Il a prêté l'oreille à de faux docteurs, ou il s'est laissé égarer par ses propres pensées. Nous devons faire tout notre possible pour le ramener, en usant de tous les moyens que l'amour chrétien nous suggère. Ce retour au chemin de Dieu a tellement de valeur pour le cœur du Seigneur qu'il l'assimile en importance au retour de la brebis perdue qui remplit le ciel de joie, au pécheur perdu dont l'âme est sauvée de la mort. L'âme du chrétien égaré et celle du pécheur sans Dieu sont l'une et l'autre sur le chemin de la mort.
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Romains 8, verset 13. Le Seigneur présente la valeur que ce retour a à ses propres yeux comme un encouragement pour ramener ceux qui s'égarent. Il dit de celui qui accomplit cela
qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.
Dieu désire couvrir le péché, car ses yeux sont trop purs pour voir le mal. L'œuvre de la croix a rendu cela possible.
Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert.
Psaume 32. C'est bien de la conversion d'un pécheur qu'il est question à la fin de ce passage, car jamais un croyant égaré n'est appelé un pécheur. Il est appelé ici quelqu'un ou un homme. Galates 6, verset 1.
Frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur.
1 Corinthiens 5, versets 1 à 5.
On entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous et une fornication telle qu'elle n'existe pas même parmi les nations, de sorte que quelqu'un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt mené deuil afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà, comme présent, jugé, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui a commis cette action. J'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus.
Rappelons-nous sans cesse les exhortations de cette précieuse épître pour juger tout mouvement de propre volonté, pour faire les œuvres de la foi et pour vivre dans l'attente du Seigneur et dans la prière.